Nous allons prendre un texte dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, et nous allons lire à partir du verset 25. Matthieu, chapitre 11, verset 25. Il nous est dit ceci. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et à celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Dans le texte que l'on vient de lire, on peut trouver une promesse de Jésus. C'est quoi cette promesse? C'est celle de trouver du repos pour nos âmes. Est-ce que ce soir ça intéresse quelqu'un? De trouver le repos pour son âme. Trouver le repos pour son âme. Alors on peut se poser cette question, qu'est-ce que c'est que le repos? Alors le repos c'est quoi? C'est un état de calme et de tranquillité. C'est quand on est calme et on est tranquille. C'est un état de paix intérieure. Et c'est aussi être reposé, avoir repris des forces. En opposition au repos, on peut avoir l'agitation. C'est le contraire d'être calme, c'est être agité. Il peut y avoir des angoisses. Il peut aussi y avoir de la fatigue. Et on peut se poser cette question et faire un bilan. Dans quel état sommes-nous ce soir? Est-ce que nous sommes dans le repos, dans le calme, dans la tranquillité, dans un état de paix intérieure, ou est-ce que l'on est plutôt dans l'agitation, dans les angoisses ou dans la fatigue? Si on est dans le repos, eh ben c'est bien, il faut le garder et continuer et rester dans cet état-là. Mais si par contre on n'est pas dans ce repos, on peut le recevoir. Et ce soir, peut-être qu'il y a des personnes parmi nous qui n'ont pas ce repos et qui aspirent à l'avoir. Et ce soir, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on peut recevoir ce repos. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est qui peut recevoir ce repos? Dans le texte que l'on a lu, au chapitre 11, verset 28, il nous est dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Vous tous. Et la première chose qu'on peut voir, c'est que n'importe qui ce soir peut recevoir le repos. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. » Qui qu'on soit, que l'on soit dans la pire des angoisses intérieures, que l'on soit chrétien depuis longtemps, ou que l'on soit une personne qui connaît absolument rien aux choses de Dieu, ce soir, nous pouvons tous recevoir le repos que Dieu a promis. Chacun d'entre nous dans cette salle pouvons le recevoir. Dans Nombre 23, verset 19, il nous est dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ça veut dire que s'il dit que l'on peut recevoir le repos, c'est qu'on peut le recevoir. Et n'importe qui ce soir peut repartir de ce lieu avec la paix, avec le repos dont on a besoin. Alors comment faire pour recevoir ce repos? Puisque Jésus promet qu'il nous donnerait du repos, et plus loin il nous dit, vous trouverez du repos pour vos âmes. Alors comment faire pour recevoir ce repos? Eh bien dans le texte que l'on vient de lire, Jésus nous laisse des instructions. C'est tout simple. Il nous dit ce qu'il faut faire pour recevoir ce repos. C'est un peu comme un GPS. Si vous suivez le GPS, vous êtes sûr d'arriver à l'endroit que vous désirez. Tournez à droite, tournez à gauche, faites demi-tour. Mais dans tous les cas, on va trouver l'endroit que l'on désire parce qu'on va suivre les instructions. Et si Dieu nous donne, au travers de sa parole, des instructions pour trouver le repos, si on suit les instructions, on trouvera le repos. Il ne peut pas être autrement. Dans le psaume 119, au verset 105, il nous est dit que la parole de l'Éternel est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Au travers de sa parole, le Seigneur, il éclaire le chemin et il nous montre ce que nous devons faire pour atteindre le repos. Alors on va voir les différents conseils, les différentes instructions que Dieu nous donne. Donc au verset 28, il nous est dit « Venez à moi ». Et c'est Jésus qui parle. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. La première chose que Jésus nous demande de faire, c'est de venir à lui. Il nous est dit, je vous donnerai du repos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le repos, ça se reçoit. On ne peut pas le trouver en nous-mêmes. Je vous donnerai du repos. Ça veut dire que si vous avez besoin de repos, vous avez besoin de le recevoir. Et la première chose que Jésus nous demande de faire, c'est de venir à lui. Si on veut recevoir quelque chose de quelqu'un, il faut aller voir cette personne pour recevoir ce qu'il veut nous donner. Et bien c'est ça la première instruction. Jésus dit, venez à moi. Venez à moi. Alors ça nous parle de quoi? Ça nous parle aussi que si on a besoin de venir à Jésus, c'est peut-être aussi parce qu'on est loin de lui. Le fait de venir, ça veut dire qu'il faut qu'on se déplace, qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour venir à lui. Venez à moi. Donc on peut se poser deux questions. Qu'est-ce que c'est qui nous éloigne de Jésus? Qu'est-ce que c'est qui nous éloigne de Dieu? Et qu'est-ce que c'est que ce fardeau que ceux qui sont loin de Dieu ont sur leurs épaules et qui les fatiguent? On voit que ceux qui ont besoin de repos, c'est ceux qui sont loin de Jésus et c'est ceux qui sont sous un fardeau, qui sont chargés. Dans la version du Semeur, le même texte que l'on a lu, il est traduit de cette façon. « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Eh bien, cette séparation, ce fardeau, la Bible nous dit que c'est le péché qui cause cela. Dans Ésaïe, au chapitre 59, au verset 1er, il nous est dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Donc on voit que ce qui nous sépare de Dieu, ce qui fait qu'on est loin de Dieu, c'est le péché. À cause du péché, tous les hommes sont loin de la présence de Dieu. À cause du péché, nous sommes sales, nous sommes souillés, nous faisons le mal. Et on ne peut pas avoir accès à un Dieu qui est saint, un Dieu qui est parfait, un Dieu qui est juste, parce que nous sommes sales et souillés. Et le péché, eh bien, c'est à la fois ce qui nous éloigne de Dieu, mais c'est aussi un poids que l'on porte. C'est un fardeau. Vous savez, quand on a péché, il y a une culpabilité sur nos épaules. Quand on a fait le mal, qu'on sait qu'on est coupable. C'est quelque chose que l'on porte. Et plus on fait le mal, plus on est accablé, plus on est écrasé sous le poids de ce fardeau. Alors comment faire? Puisque Jésus nous dit, mais venez à moi. Si nous sommes séparés de lui à cause du péché, si nous sommes fatigués à cause de ce fardeau, comment faire pour venir à Jésus? Eh bien, il y a une bonne nouvelle. C'est que Dieu est un Dieu qui fait grâce et qui pardonne le péché. Dieu pardonne le péché. Dans Romains au chapitre 3 et au verset 23, il nous est dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Privés de la gloire de Dieu. Ça nous parle de la séparation. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu nous fait grâce en Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu sur cette terre, c'est Dieu qui s'est fait homme, qui est allé jusqu'à la croix, lui qui était parfait, mourir pour des coupables. Et c'est ça la grâce de Dieu. C'est que le péché, la condamnation que nous méritions, eh bien c'est Jésus qui l'a subi pour nous à la croix. Le fardeau que l'on devait porter, celui du péché, de la colère de Dieu, c'est Jésus qui l'a subi pour nous à la croix. C'est ça la grâce de Dieu. C'est que Dieu est juste, donc il ne peut pas. Le péché mérite un jugement et une condamnation, mais parce qu'il nous aime, il a envoyé son propre Fils prendre cette condamnation à notre place. Il nous est dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2:8. Ça veut dire que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, mais au moyen de la foi. De la foi dans le sacrifice de Jésus. C'est bien de savoir que Jésus, il est mort pour nous à la croix, mais ce qu'il faut comprendre, que c'est pas juste un homme qui est, c'est pas juste Jésus qui est mort à la croix, c'est qu'il est mort pour nous. Et avoir foi dans le sacrifice de Jésus, c'est croire que Jésus est mort à la croix pour moi. Et ça, c'est important. Voici ce qui nous est dit sur l'œuvre de Jésus, sur ce qu'il a fait. C'est dans Ésaïe au chapitre 53, au verset 3, il nous est dit de Jésus. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. C'est peut-être le cas de quelqu'un ce soir. Il a dédaigné et il n'a fait aucun cas de Jésus jusqu'à présent. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, comme un fardeau. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, comme un fardeau. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, ou on pourrait dire le châtiment qui nous donne du repos, est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et en allant à Gethsémané, sur le Golgotha, je veux dire, Jésus, ce n'est pas simplement une croix en bois qu'il a portée, mais c'est nos fardeaux à nous, c'est nos péchés. Et si ce soir, on peut repartir sans ce fardeau, eh bien c'est parce que Jésus l'a porté à la croix. Mais c'est à nous de faire confiance dans l'œuvre de Jésus, c'est à nous d'accepter qu'il prenne nos fardeaux à la croix. Au début de ce chapitre 53 d'Ésaïe, il nous dit « Mais qui a cru ?» Et je vous pose cette question ce soir. Qui croit que Jésus est allé à la croix pour prendre la condamnation de nos péchés? Qui croit que Jésus a porté sur le bois de la croix nos péchés? Eh bien, si vous le croyez, vous pouvez recevoir ce repos et vous pouvez être sûr que vous êtes réconcilié avec Dieu parce que vous acceptez que son Fils prenne vos péchés à la croix. Nous avons cette promesse du Seigneur dans Jean au chapitre 6 et au verset 37. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Et là, c'est encore une promesse que le Seigneur donne dans sa parole, c'est qu'il ne met pas dehors celui qui vient à lui. Le Seigneur nous dit « Mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Mais il dit aussi « Si vous venez à moi, je ne vous mettrai pas dehors. » Mais bien sûr, il faut le vouloir. C'est sûr que si vous aimez le péché et si vous désirez rester dans le péché, si vous aimez faire le mal et que ça vous va très bien, vous ne viendrez jamais à Jésus pour en être délivré. S'il y a besoin, c'est d'une repentance, c'est d'un changement d'attitude vis-à-vis du péché. C'est-à-dire que le péché qu'on aime, on n'en veut plus. Et Jésus qu'on a méprisé et dédaigné, on veut venir dans sa présence et on veut être avec lui. Donc le fardeau dont on a parlé, c'était le péché. Mais ça peut être autre chose. Ça peut aussi être la maladie ou les soucis de la vie. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Est-ce que des fois, dans la vie, il ne peut pas y avoir des fardeaux ou des soucis ou des maladies que l'on peut traîner et qui nous fatiguent, qui fatiguent notre corps, mais qui peuvent aussi nous démoraliser, nous fatiguer? Eh bien là aussi, nous pouvons déposer ces fardeaux à Jésus. Il nous est dit dans Hébreux 4 au verset 16 « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Et là c'est pareil, c'est venir au trône de la grâce, c'est-à-dire compter sur sa grâce et nous approcher avec assurance. Ça nous parle de la foi. Et si on a des soucis dans notre vie, si on a des fardeaux que l'on traîne, si on a des maladies, eh bien, on peut compter sur la grâce de Dieu et on peut s'approcher de lui par la foi. Dans le texte d'Ésaïe 53 que l'on a lu, il est bien dit que ce sont nos souffrances qu'il a portées, que c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Par exemple, on a les disciples, quand ils sont allés, quand ils étaient dans la barque, on peut le lire ensemble, c'est dans l'évangile de Marc au chapitre 4. Et à partir du verset 35. Marc, chapitre 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, et il parle aux disciples, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il y eut un grand calme, un repos. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Vous voyez, ils étaient dans la tempête, ils avaient peur, ils étaient, on pourrait dire, dans les angoisses, en haut, en bas, en haut, en bas. Mais dans la barque où il y avait Jésus, ils sont allés à lui, ils l'ont réveillé, et quand ils sont venus à lui, et bien le Seigneur, il a dit un mot, et le calme est revenu. Et ce soir, il peut y avoir des tempêtes dans les vies, mais un mot du Seigneur, et la tempête s'arrête, parce qu'il a autorité. Donc nous avons vu que, quel que soit le fardeau, que ce soit notre péché, ou que ce soit les soucis de la vie, la maladie, le Seigneur, le premier conseil qu'il nous donne, c'est « Venez à moi ». On va voir le deuxième conseil maintenant. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Prenez mon joug. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un joug ? C'est une pièce de bois qu'on met sur deux animaux et on les attache ensemble. Et avec cette pièce de bois, les deux animaux, ils peuvent faire un effort en commun. Bon, la définition, c'est une pièce de bois servant à atteler une paire d'animaux de traits pour les relier à un véhicule ou à une machine agricole. Donc on attache des animaux ensemble à l'aide d'un joug et les deux animaux peuvent tirer une charge plus lourde. Et là, on voit tout de suite que ce que le Seigneur veut, c'est pas simplement que l'on vienne à lui. Mettre un joug, ça consiste à nous unir à lui. Et c'est différent. Il y a une grande différence entre venir à Jésus de temps en temps et repartir ensuite, et venir à Jésus et être uni à lui, être attaché à lui, lié à lui. Et il y a une grande différence. Il y a certaines personnes qui viennent à Jésus parce qu'ils ont besoin de repos, et dès qu'ils ont obtenu ce qu'ils veulent, ils repartent. Et bien sûr, ils perdent le repos et ils reviennent. Et ça fait tout le temps des va-et-vient. Et puis il y a ceux qui viennent à Jésus, non pas dans le but d'être bénis, mais dans le but d'être avec lui et d'être uni à lui. Quand Jésus nous propose son joug, ça veut dire qu'il nous propose de s'unir à lui, de faire une alliance avec lui. Dans la Bible, on voit que Dieu aime faire des alliances avec les hommes. Il fait une alliance avec Noé, il fait une alliance avec Abraham, il fait une alliance avec le peuple hébreu, il fait une alliance avec David, il fait une alliance avec nous, qu'il nous propose au travers du sacrifice de Jésus. Et même après l'enlèvement, il fera encore une alliance avec le peuple d'Israël. Et c'est cette pensée, quand il nous dit qu'il faut mettre le joug, c'est d'être lié à lui. Cette autre pensée, on la retrouve dans la Bible. Par exemple, Christ, il dit qu'il est l'époux et que son église est sa fiancée. On voit qu'il y a un lien. On voit aussi le lien qui unit un fils à son père. Que si nous acceptons le sacrifice de Jésus, nous sommes appelés ses enfants. Il y a un lien. Donc je le répète, mettre le joug du Seigneur, ça consiste non pas à être juste à côté de Jésus, mais ça consiste à être lié avec lui et à faire alliance avec lui. Pour ceux qui ont accepté ça, cette alliance, nous, on a un symbole qui nous le rappelle souvent, c'est la Sainte Cène. Il nous est dit que la Sainte Cène, la coupe de vin, représente la nouvelle alliance que nous avons faite avec lui. Et qu'est-ce que nous avons choisi ? Eh bien, nous avons choisi d'entretenir une communion avec Jésus. Une communion, commune, union. Une union avec lui. Nous avons choisi de lui être fidèles. Et cet engagement, c'est quel jour qu'on l'a pris ? Eh bien, le jour du baptême. Il nous est dit dans 1 Pierre 3, verset 21, que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est un engagement. Et donc, quand le Seigneur nous propose de mettre le joug, il y a deux façons de le voir. Il y a soit la façon de le voir comme mettre le joug comme un esclave qui obéit et qui n'a pas le choix, et ça c'est complètement faux. C'est pas biblique cette vision-là. Parce que Dieu nous laisse le choix de choisir. Et s'il veut qu'on vienne à lui, il veut qu'on vienne par amour, pas forcé. Et d'ailleurs, le Seigneur ne vous forcera jamais. Mais il y a l'image d'une épouse qui s'attache à son époux, l'image d'un enfant qui aime son père. Et c'est ça que le Seigneur nous propose, c'est de l'aimer. Dans l'Ancien Testament, il nous est dit, dans le Deutéronome, au chapitre 22, verset 10, « Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. » Ça veut dire qu'on ne pouvait pas mettre sous un joug, enfin Dieu interdisait que l'on mette sous un même joug deux animaux différents, d'une hauteur différente. Et là, il y a une image forte. il y a une image forte. C'est que Jésus, qui était dans la gloire, qui était sur son trône, au-dessus de toute chose, a accepté de s'abaisser. Il nous est dit dans les Philippiens qu'il s'est dépouillé de sa gloire et qu'il s'est fait serviteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a mis le joug à notre hauteur. Il s'est fait homme pour venir jusqu'à nous et pour nous donner cette possibilité de s'unir avec nous. Donc nous avons cette possibilité parce que Jésus est venu. Alors quelles sont les conséquences maintenant si on choisit de s'unir à Jésus? Dans Hébreux au chapitre 8, il nous est dit ceci. Mais voici l'alliance, c'est Dieu qui parle, que je ferai avec la maison d'Israël. Et on pourrait dire qu'on pourrait mettre notre nom à la place d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Ça nous parle de la nouvelle naissance. Un cœur nouveau. Et si vous choisissez de faire alliance avec Dieu, par grâce, au moyen de la foi, Dieu de son côté promet qu'il vous fera naître de nouveau, c'est-à-dire qu'il vous donnera un cœur nouveau, qu'il viendra habiter dans votre cœur. Ensuite, il nous est dit, « Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Ça nous parle du rachat et de l'adoption. Ça veut dire que si vous faites alliance avec Dieu, vous lui appartiendrez. « Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni son frère, en disant, « Connais le Seigneur, car tous me connaîtront. » Depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Et ça nous parle de connaître Dieu. Et de toutes les bénédictions, c'est la plus grande. Il n'y en a pas de plus grande. Il nous est dit donc, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et Dieu s'engage à pardonner toutes les fois que nous viendrons lui demander pardon. Donc on voit que dans cette alliance, en fait, Dieu nous propose d'être délivrés du péché, d'être délivrés de la condamnation du péché en nous pardonnant. Nous ne sommes plus coupables parce qu'il nous a pardonnés. En nous délivrant du pouvoir du péché, nous ne sommes plus obligés de pécher parce qu'il nous donne un cœur nouveau. Et un jour, il nous délivrera de la présence du péché parce qu'il nous ressuscitera, nous donnera un corps nouveau où le péché n'aura plus sa place. Et là, nous pourrons être avec lui pour l'éternité. Dans Hébreux 9, au verset 15, il nous est dit, et c'est pour cela qu'il est le médiateur, il nous est parlé de Jésus, c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Et là, il nous est parlé dans cette alliance d'un héritage. On va prendre l'image d'un enfant qui a été adopté. Prenons un enfant qui est très très pauvre, et un jour le roi l'adopte. Ah, le roi adopte cet enfant qui est très très pauvre. Est-ce que cet enfant est toujours pauvre? Eh bien non, il a accès à un héritage. On va prendre l'exemple d'un mariage. Si un prince vient se marier avec quelqu'un qui est très très pauvre, eh bien cette femme, elle a accès à tout ce que possède ce prince. Eh bien c'est pareil, quand nous nous unissons avec le Seigneur, il y a un héritage, il y a des richesses auxquelles nous avons accès, même pour aller plus loin, auquel nous avons droit. Et dans cet héritage-là, dans cette alliance, il y a le repos que Jésus promet. Et ce repos-là, il est beaucoup plus profond quand on fait alliance avec Jésus que quand on vient à lui et on repart, on vient à lui et on repart. Premier conseil, venir à Jésus. Ensuite, nous unir à lui. Troisième conseil, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Et là, il nous est parlé de recevoir les commandements de Dieu, de lui obéir. Dans une autre version, il nous est dit « Venez à mon école. Venez à mon école. » Et oui, parce que Jésus, ce qu'il veut, ce n'est pas des personnes qui s'appellent chrétiens et qui sont totalement désobéissantes. Ce qu'il veut, c'est des disciples. Et quand il nous est parlé de disciples, ça nous parle de discipline, ça nous parle du fait qu'il faut apprendre. Tout comme quand on va à l'école, on a d'abord le CP, ensuite le CM1, CED, CM1. Et ce qu'on sait faire en CM1, ce n'est pas la même chose que ce qu'on sait faire au CP. Au CP, on apprend à lire ma, me, enfin voilà. Et quand on est au CM2, eh bien, on sait faire des divisions. Voilà. Et eh bien, c'est pareil aussi. Le Seigneur, il nous donne des instructions. Et si on écoute ces instructions, eh bien, on grandit. Et notamment, on grandit dans ce repos. Recevoir les instructions. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire qu'il faut écouter. Parce que si on veut apprendre et si on veut grandir, on a besoin de recevoir la parole de Dieu. Dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 3, il nous est dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et que ses commandements ne sont pas pénibles. Pourquoi? Parce qu'on l'aime. Et c'est là où on comprend cette parole qui nous dit « Car mon joug est doux et mon fardeau léger ». Effectivement, quand on aime le Seigneur, son joug est doux et son fardeau est léger. Pour aller un peu plus loin, donc on a vu comment trouver ce repos. D'abord, nous unir à, venir à Christ, nous unir à lui et recevoir ses instructions pour grandir. Mais là, je vais m'adresser à des chrétiens maintenant, ceux qui connaissent déjà et qui ont fait cette démarche, et qui écoutent les paroles de Dieu, et tant bien que mal, s'appliquent à les mettre en pratique. À quoi ça sert un joug? Ça sert à nous unir, mais ça sert aussi à tirer un fardeau. Ça sert à servir. Il nous est dit dans la Bible, tu l'adoreras et tu le serviras. D'abord, il nous est demandé de nous unir à Christ par amour, parce que quand on aime, on s'engage, mais il nous est aussi dit que ça sert à servir. Il y avait deux fardeaux dans cette histoire. Il y avait le notre fardeau, le premier fardeau. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et cela, on a vu que Jésus veut le prendre et s'en occuper. Donc on peut le déposer au pied de Jésus. Mais il nous est dit qu'il y a le fardeau du Seigneur qui est un fardeau léger. C'est-à-dire que le Seigneur nous propose de partager un fardeau et de servir avec lui pour tirer ce fardeau. Alors qu'est-ce que c'est que ce fardeau? Quel est le fardeau que le Seigneur veut tirer? Sur la terre, quel était le fardeau de Jésus? Quel était ce fardeau? Ce pourquoi il travaillait, ce pourquoi il servait, ce pourquoi il mettait ses forces? Eh bien, c'était le fardeau des âmes. Et c'est vrai que si le Seigneur nous sauve, et si le Seigneur veut que nous soyons unis avec lui, c'est aussi pour servir avec lui et servir à ce que ceux qui sont autour de nous soient sauvés. Son service au Seigneur, c'était en faveur des perdus. Et même les souffrances qu'il a endurées, c'était par amour pour les perdus. Voici les deux premiers commandements que le Seigneur nous donne. Le premier, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça, les commandements qui sont doux, le fardeau qui est doux. Il nous est dit ceci dans la première épître de Jean, au chapitre 3 et au verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Et si on veut accepter de prendre le joug du Seigneur, alors il va mettre sur nos cœurs un fardeau qui est totalement différent. Ce n'est plus le fardeau du péché, mais c'est le fardeau des âmes. C'est le fardeau des âmes. La Bible nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et c'est vrai que si on se met à servir pour que les âmes soient sauvées, et si on commence à faire nos efforts, à dépenser notre vie pour que ceux qui sont autour de nous apprennent à connaître le Seigneur et soient sauvés, et bien c'est vrai qu'il y a un repos et il y a une paix que l'on reçoit. Amen. Merci Seigneur pour ta parole et merci c'est vrai pour cette invitation que tu nous donnes de venir à toi, de nous unir à toi et de porter ce doux fardeau Seigneur. Et de tout notre cœur, nous voulons te prier afin que tu puisses nous aider à aller plus loin. Vraiment que encore ce soir, que ceux qui ne te connaissent pas puissent venir à toi et que selon ta promesse, puisqu'ils viennent à toi, tu puisses leur donner le repos. Que ceux qui veulent aller plus loin avec toi puissent faire alliance avec toi encore ce soir et que tu puisses faire toutes ces promesses que tu as promis pour ceux qui s'unissent à toi, Seigneur. Et puis pour nous qui sommes unis à toi, nous voulons te prier vraiment afin que tu puisses mettre sur nos cœurs encore plus ce fardeau des âmes, afin que nous puissions te servir mieux et que nous puissions être de bons témoins pour ceux qui sont autour de nous. Merci pour ta parole, Seigneur. Nous louons et glorifions ton nom. Amen.